dossier là, franchement.
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023, il sonne 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes branchés sur Canal FM à Lomé, ses environs ici, ou sur Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix à Takpamé, Radio Lumière à Nero, mais également les radios numériques, Ebene Radio, Radio Le Bénin, ou toutes autres applications numériques comme la chaîne YouTube qui nous mettent en contact avec vous de par le monde entier. Et Kossi Thomas Datevi qui manie tous les boutons techniques pendant que autour de moi au studio... Nous accueillons, même si c'est jeudi, il est avec nous, Olivier Yao Adja de Harakiri. Bonjour.
Oui, il y a Yao dedans, c'est comme Sarakawa. D'accord. Donc, les jeudis, j'ai la possibilité, même la liberté de venir vous visiter. Oui. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute.
Et tu le fais bien, et... tu es né jeudi, on t'appelle Yao. Lui aussi, il est né jeudi, on l'appelle chez lui Sarakawa Balo. Michel Tchadja, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour confrère, bonjour Canal FM.
Et lui, c'est Teko Magloire, Kenvi de Flambeau des Démocrates, bonjour.
Bonjour Sas Gaou, bonjour chers confrères et bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Ce n'est pas superflu peut-être de rappeler que je suis né un mardi moi.
Mardi?
Ah oui.
Comme mes filles.
Uh-huh.
Merci. Aujourd'hui avec vous trois et un quatrième confrère que nous attendons incessamment... Nous allons parler de la sécurité sociale et du bien-être des populations. Ce n'est pas tous les jours que le gouvernement, sur deux semaines consécutives, consacre le Conseil des ministres à la problématique de l'assurance maladie. C'est une bonne chose. Tous ces décrets qui ont été pris avec extension intégrale de l'assurance maladie. Mais Flambeau des Démocrates attire notre attention également sur les personnes du troisième âge, la question de l'espérance de vie au Togo, tout comme nous allons parler également du sort de certains étudiants togolais de par le monde. Et puis de l'eau pour les périphéries de Lomé dans le quartier cher à Michel Tchadja. Et puis qu'en est-il de l'internet et du Wi-Fi zone au Togo? Voilà le menu du club de la presse. Et que, avant de lancer les débats, revisitons cette phrase du sage qui nous écrit « Ne juge pas ta journée en fonction de la récolte du soir, mais plutôt d'après les graines que tu as semées. » Encore une fois, ne juge pas ta journée en fonction de la récolte du soir, mais plutôt d'après les graines que tu as semées. Et l'homme Kossi Atichobe, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à tous les confrères et bonjour Canal FM.
Eh bien, c'est parti pour cette émission. Mais je voudrais juste que ensemble, en solidarité, nous pensions à deux amis que nous venons de perdre. Le premier que nous évoquons, il s'appelle ou il s'appelait Otto Günther Mausi Pego. Il était expert conseiller en gouvernance et autonomisation de la prévention et de la sécurité routière. Il était le directeur exécutif de l'association Action pour les victimes de la route à VR Togo. Nous l'avons reçu c'est un homme de foi, ici au Club de la Presse, pour nous parler du code de la route et comment nous devons nous tenir sur la route. Et il nous a quitté le 30 septembre dernier. Aujourd'hui, les parents et amis feront sa messe veillée à l'église de Onyomé. Et demain, il sera porté en terre. Le deuxième ami, grand frère que nous avons perdu, c'est Jovi Gali, qui n'est plus à présenter. Il est parti également et courant la semaine prochaine, il sera également porté en terre. Et Flambeau Magloire, vous avez certainement assez bien connu Jovi Gali. Vous lui donniez cet éditorial hommage intitulé « L'homme aux cheveux blancs » tout court.
Bien évidemment, l'homme aux cheveux blancs, c'est par ce vocable que beaucoup désignaient l'homme. Nous le disions il y a quelques jours déjà, il a plu à l'Éternel des armées de rappeler auprès de lui son serviteur. Les hommages continuent jusqu'à ce matin. Et il y a un autre Togolais, à part tout ce que les hommes de la presse ont dit jusque-là, il y a un monsieur également, un Togolais qui connaît assez bien également l'homme, et qui a décidé, n'est-ce pas, de consacrer sa plume pour rendre hommage, n'est-ce pas, à ce grand homme. Il s'appelle Sir Adomayapor, que vous connaissez très bien.
Le grand citoyen d'État.
Le grand citoyen d'État. Il y est allé avec sa plume assez fine, assez châtié, que vous connaissez très bien.
Mais je constate à la lecture du texte qu'il a dilué sa plume, si bien qu'on peut le comprendre beaucoup plus aisément que par le passé.
Exactement, je crois que c'est beaucoup plus accessible également.
Voilà.
Et ça vaut la peine parce que le monsieur est d'une immensité assez indescriptible, qu'il fallait adopter un style assez courant pour permettre à tous les concitoyens togolais de savoir ce qu'il voulait dire véritablement au travers donc de son hommage. Et je vous assure que il a dit assez de bonnes choses, et il serait intéressant que les lecteurs puissent se procurer le journal pour découvrir cet hommage dans toute son entièreté.
Merci Sir Adomayapor, hein, qui écrit que cet homme aux cheveux blancs, Jovi Gali, pour ceux qui le connaissent, était un pensionnaire des libertés, un grand fonctionnaire, un grand factionnaire des droits de l'homme. Et plus loin, Jovi Gali combattit, selon Sir Adomayapor, avec hardiesse le mal social et les injustices partout où il les rencontra. Plus loin encore, Sir écrit que Jovi Gali n'avait jamais été d'un clan contre un autre, d'une chapelle contre une autre, mais plutôt un rivage, un champ perméable à toutes les diversités. Jovi Gali savait lier des affinités à politique. Ses élans d'affection partaient des plus humbles et montaient jusqu'au sommet de l'État. Et puis, l'histoire de Jovi Gali, comme son œuvre, font de lui un homme passe-frontière. Il était attaché au service de ses idées. Il était capable de construire des passerelles entre les cultures et les appartenances, etc. Paix éternelle à lui. Nous parlons de ceux qui sont partis, Otto Günther, Pego et Jovi Gali, mais il y a quelqu'un qui est là, et surtout qui vient de franchir un nouveau palier. Il est très jeune, il est des nôtres. Lui, c'est Pierre Claver Couveau. Il a soutenu avec succès sa thèse de docteur unique en philosophie, spécialité phénoménologie politique, c'était le 29 octobre dernier. Flambeau lui rend hommage de son vivant, c'est très bien, ma gloire.
Absolument, il fallait le faire parce que on est un peu habitué à cela, c'est-à-dire dire de très très jolis mots, de très bonnes choses des gens lorsqu'ils ne sont plus de ce monde. Il faut rompre avec cette chaîne-là, et nous avons décidé cette semaine de rendre hommage à un Togolais, à un journaliste, à un confrère qui au-delà, n'est-ce pas, de sa plume de journaliste, c'est également de jouer à la philosophie, et il le fait d'ailleurs si bien. Il a soutenu donc sa thèse de doctorat la semaine passée, avec admis au grade désormais de docteur avec mention très honorable.
Et
ce n'est pas fini.
Avec félicitations du jury.
Avec félicitations du jury. Quand on sait justement que le président du jury est le philosophe et ancien ministre togolais ministre du travail, Octane Nkoubroum.
Mais je travaille entre autres également de l'enseignement supérieur.
Exactement, ça voudra dire que c'était un travail assez fourni, assez sérieux que le confrère a abattu aujourd'hui. Quand vous voyez un peu la thématique développée, il a parlé de conflictualité et médiation chez Hegel. Lorsqu'on sait surtout que notre monde actuel est exposé à toutes sortes de conflits, même chez nous ici, dans les familles, dans les communautés, entre États, il fallait que des penseurs puissent développer des théories pour aider le monde à pacifier tout ce qui est comme relation humaine. Et je crois que c'est ce que Pierre Clavel-Couvreur a essayé de faire aujourd'hui. Pierre Chandel, quand même.
Félicitations aux confrères et amis Pierre Clavel-Couvreur, désormais docteur.
Oui.
Comme quoi la corporation des journalistes se peuple progressivement de docteurs, c'est une très bonne chose. Ça va faire monter en gamme et nos articles et nos commentaires. Et au président de ce président du jury, le professeur ministre Octave Nicoué-Broom, que je connaissais personnellement depuis les années 80. J'étais encore étudiant à l'Université du Bénin quand Octave Nicoué-Broom, tout fraîchement, un jeune docteur, venait de rentrer à l'Université du Bénin. Il continue à faire son chemin. Il dirige des thèses. Professeur, chapeau. Et une personne également que nous n'allons pas manquer de saluer. Nous avons évoqué son nom hier. Cette personne est en plein dans ce mois de d'octobre doublement. C'est une femme. Donc elle est concernée par le mois d'octobre rose. La problématique du cancer du sein que nous ne lui souhaitons pas. Et puis elle est également dans le consommé local. C'est elle la promotrice de Nirajou, qui fait des boissons locales, qui fait des les tchotoula, comment on l'appelle, les affitis. Elle s'appelle madame de la société Élysée, madame Malim. Michel, hier nous parlions d'elle. Et je disais, avec ta permission, qu'elle est notre amie, la preuve, toi et moi, nous allons la voir à la maison. Je le disais hier, et puis, elle se met en connexion directe avec nous aujourd'hui.
Oui, moi-même, j'étais surpris quand elle m'a fait signe ce matin, quand je venais à la radio, elle se rappelle donc des confrères qui animent le club de la presse jeudi. Et ça ne veut pas dire qu'elle... n'aime pas les autres confrères qui viennent les autres jours, mais pour la journée de jeudi où le plus souvent nous sommes là, on parle le plus souvent de la société Nirajou, c'est madame Élysée de la société Nirajou qui fait la boisson locale du Koudou qu'elle appelle Malim. Et donc ce matin elle a pensé à nous. Elle a voulu nous offrir quelque chose pour la troisième mi-temps. Donc, cette boisson locale-là que nous allons partager à la fin.
Donc, notre amie, madame Élysée, de société Nirajou, qui sponsorise la troisième mi-temps par la boisson Tchoukoutou Malim.
Voilà.
Il y a les deux versions.
Oui, il y a les deux
versions. Pour les petits et pour les grands.
Oui.
Bon, j'espère que vous serez conduit pour rentrer chez vous après cette longue troisième mi-temps. Madame, chapeau à vous aussi. Ça nous fait chaud au cœur.
Surtout que le mois là, vraiment, c'est un mois dédié à la consommation locale. Quand on sait que le mois et les pays, donc les 8 pays de la communauté s'efforcent d'amener les populations progressivement à consommer ce que nous produisons, c'est très important.
Merci.
Parce que ce qui vient d'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis des choses qui prennent des bateaux, qui prennent des avions, on ne sait pas ce qu'on a mis dedans. Et on consomme parfois même sans modération, se poser beaucoup de questions. Je pense, avec ce que nous avons sous la main, qui est produit par nous, lorsque nous consommons cela, c'est une valeur ajoutée aux producteurs.
Notre amie, madame Élysée, ne fait pas que Tchoukoutou, elle fait également autre chose.
Elle fait beaucoup de choses. Comme les bonbons. Qu'elle a envoyé une fois ici, les bonbons, faits à base de, comment l'appelle-t-on ?
De gingembre.
Gingembre et des fruits de néré. Les fruits de baobab, voilà.
Voilà.
Donc, elle utilise ça pour faire du bonbon. Elle utilise beaucoup de choses que nous connaissons tous les jours pour faire même le curcuma, comment ils appellent ça ?
Le curcuma, oui.
Oui, elle en fait la boisson. à partir de ça. Donc vous voyez, quand vous prenez ça, nos grands-parents en utilisaient. Aujourd'hui, avec la modernisation, on nous dit d'oublier tout ça là, qu'on doit rentrer dans le tempo, alors que nous nous faisons du mal. Et donc, si elle a pensé à revenir aux fondamentaux, donc, qui existaient au temps de nos grands-parents, pour nous merci. Aider à sauvegarder
la
notre
preuve,
santé.
Encore une important. Fois que nous avons beau être un petit pays pauvre, n'avons pas de pétrole, n'avons pas de gaz, n'avons pas d'or, n'avons pas de diamants, mais si nous travaillons, nous pouvons faire sortir de nos têtes des idées géniales. Ces idées que nous envoyons nos enfants à l'école pour acquérir, pour devenir des têtes bien faites, des têtes bien pleines, quand ils font du primaire jusqu'au bac, après ils obtiennent des bourses pour l'extérieur, c'est une bonne chose. Mais quel est le sort des étudiants togolais à l'étranger? Nous allons nous transporter dans deux pays aujourd'hui. Commençons par le confrère Le Dialogue, qui écrit que le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucé, était récemment à Ouagadougou, Burkina Faso. C'était le samedi dernier et c'était dans le cadre de la remise de diplômes aux étudiants de la 12e promotion de l'Institut des Hautes Études Internationales. Des étudiants togolais de cette promotion qui ont brillamment réussi et à qui le ministre Robert Doucet est allé remettre les diplômes. C'est une bonne chose. Du Burkina, nous continuons au Maroc avec cet article de Harakiri. Olivier Yao, rebonjour.
Oui, rebonjour.
Eh bien, ton journal écrit « Maroc, des étudiants togolais dans de sales draps ». Quand j'ai lu l'article, j'ai eu vraiment la chair aux poules. Il s'agit d'étudiants boursiers togolais. Ils sont plusieurs centaines, mais ils vivent vraiment une sale situation. Certains d'entre eux sont séquestrés au Maroc avec impossibilité de quitter le pays, le Maroc, et même de voyager, bien qu'ils aient terminé leur cursus et que d'autres doivent continuer ailleurs. Mais ils ne peuvent pas sortir du Maroc parce qu'ils sont menacés de poursuite par des écoles supérieures qu'ils ont fréquentées. Ça, c'est deux, c'est des étudiants qui pourraient être également passibles de poursuites judiciaires de la part de l'État togolais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver entre l'enclume et le marteau, Olivier?
Oui, c'est dommage ce qui se passe avec nos étudiants au Maroc. Vous savez, l'État togolais ou des États aident notre pays à envoyer des étudiants à étudier, surtout le Maroc. Et le Maroc, c'est un pays très prisé par les étudiants togolais. Donc, nous avons des centaines d'étudiants qui sont dans ce pays-là. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ils sont endettés vis-à-vis de certaines écoles parce que leur frais de logement n'est plus assuré par l'État. Mais on se demande comment vous envoyez des étudiants et à l'étranger et vous n'allez pas les soutenir à trouver des logements et à financer ces logements. On ne peut pas étudier en plein air ni dans la rue. J'expose le problème. Oui. Ce sont des éléments clés qu'il faut...
Non, expose d'abord les faits.
Ce sont des éléments clés sur lesquels il faut mettre l'accent avant d'évoluer. Ça, c'est un élément. Donc, les gens doivent savoir que nos étudiants qui sont au Maroc ont du mal à se loger. Mm-hmm. C'est un élément très important.
Ça dit, la bourse que même leur octroi ne permet pas...
Ne couvre pas les frais de logement. Mm-hmm. D'accord. C'est le même du problème. Donc, il est arrivé que ces étudiants, devant ces situations, ont trouvé une astuce avec les écoles. Ils sont allés négocier avec la direction de certaines écoles de plafonner ou en tout cas d'intégrer les frais de logement à leurs frais d'études parce que l'État ne vérifie pas ça. Lorsque vous
l'État
allez...
L'État
ne vérifie pas, disons-le. Lorsque vous allez pour vous inscrire dans une école au Maroc et vous envoyez les frais que l'école vous impose à l'État. Mm-hmm. Et c'est l'État qui paie. Donc, il n'y a pas un plafonnement. Il n'y avait pas un plafonnement, bien sûr. Mm-hmm. Maintenant, ils l'ont fait, je crois. Donc, les étudiants sont arrangés avec les écoles pour que ces écoles intègrent les frais de logement aux frais d'études enfin de leur permettre de faire un package pour leur permettre de se loger. Mm-hmm. Ok, donc c'est ce qui est arrivé et c'était une pratique qui était faite. Maintenant, après ça, la pratique a été découverte au niveau donc de la DPS, la direction des bourses et stages, qui a ordonné l'arrêt donc de cette pratique là mm-hmm. et qui a dénoncé cela.
C'était en 2021.
En 2021, mm-hmm. ce qui a été fait et les écoles ont accepté d'arrêter, même si le but était d'aider, puisque ils aidaient les étudiants, les écoles avançaient les frais de logement parce que les étudiants arrivent, ils doivent se loger avant même de faire les autres démarches, ils mm-hmm. doivent d'abord avoir un toit. Oui. Donc les écoles les inscrivaient et leur trouvaient plutôt des logements et payaient. Et lorsque l'État envoie les frais en gros, mm-hmm. eux, ils prélevaient les frais, ils ont payé au titre de logement. Mm-hmm. Donc, mais en 2021, la DBS, la direction des bourses et stages, a demandé l'arrêt de cette pratique-là, mm-hmm. ce qui a été fait. Mm-hmm. Seulement, il y a certaines écoles qui avaient déjà fait des dépenses au cours de cette année. Mm-hmm. Au titre de l'année 2021, il y a eu des frais qui ont été avancés avant que l'État ne demande d'arrêter. Donc, les étudiants doivent de l'argent à ces écoles-là. Et ils sont plusieurs dizaines. Donc, maintenant, la direction des bourses et stages a demandé alors une exception pour cette l'année concernée. Mm-hmm. Pour qu'on puisse payer au moins l'année 2021 les avances qui ont été faites et qu'après, on ne puisse plus continuer. Mais je crois qu'au niveau de la représentation diplomatique ou au Maroc, et ça n'a, la demande n'a pas passé. Donc mm-hmm. l'école n'a pas eu gain de cause. Et l'école a alors décidé de ne pas laisser les étudiants qui lui doivent de l'argent donc partir après le cursus, puisqu'ils ont fini. Ils devraient partir depuis des mois, mais ils sont là, dans ce pays séquestré.
Voilà.
À Lomé ou bien au Togo, on n'arrive pas à trouver. Parce que nous avons contacté le chargé d'affaires du Togo au Maroc, mm-hmm. qui n'a pas voulu se prononcer sur l'affaire. Nous avons aussi contacté le ministre des enseignements supérieurs, et le ministre Iwu, qui n'a pas aussi voulu se prononcer sur l'affaire. Et ainsi, l'école ne trouve pas d'interlocuteur au niveau du Togo. Il n'y a mm-hmm. pas de gens qui puissent répondre. Si bien que ils ont gardé les otages, les étudiants comme des otages, mm-hmm. en contrepartie du paiement, ils seront relâchés.
Voilà la situation. La bourse que l'État togolais paie aux étudiants, c'est juste pour les études, les logements n'étant pas pris en compte. Alors, il y a cet arrangement que ces étudiants trouvaient avec les universités qui ont fait un package. Hein, les écoles payaient le logement. Et quand l'État envoyait l'argent, il reprenait et pour le logement et pour les études. Le poteau rose découvert en 2021, l'État qui suspend cela, sauf que déjà certaines écoles avaient déjà engagé des dépenses à hauteur de 27 millions de francs CFA. Ces étudiants ayant fini leurs études et ne se sont pas vus décerner leur diplôme, ils ne peuvent même pas quitter le Maroc tant que les écoles ne sont pas rentrées dans leurs droits. Ces écoles qui disent ne pas trouver d'interlocuteur de la part de l'État togolais. Étudiants pris en otage, ça aurait été le titre d'un joli film. Elon Kossi,
il a dit que... Bon, on peut faire un featuring, il n'y a pas de problème. Bon, je crois que l'article d'Arakiri ce matin révèle un certain nombre de choses et relance le débat sur cette affaire de bourse. Quand nos enfants ou quand nos frères, nos sœurs finissent d'obtenir le bac ici ou l'étude secondaire et qu'ils voudraient justement avoir, trouver une bourse pour partir. Il y a de plus en plus de Togolais, de compatriotes, j'allais dire, qui, une fois le bac reçu ou obtenu, cherchent des bourses. Peu importe la destination. L'essentiel, c'est d'avoir la bourse. Turquie ou Dubaï ou Azerbaïdjan, l'essentiel, c'est qu'on veut une bourse. Mais depuis que vous avez constaté qu'il y a des compatriotes qui décèdent ou qui meurent dans des conditions bizarres dans des pays parce qu'ils ont obtenu une bourse pour aller étudier, vous avez constaté que les gens font de plus en plus attention. Parce qu'il faut que les parents aussi soient éveillés par rapport à ça. Il ne faut pas que vous puissiez expulser votre enfant du pays au nom d'une prétendue bourse, quoi.
Et même le processus d'attribution de bourses, même au Togo, c'est un mystère. Aujourd'hui, on publie des communiqués en disant que oui, le meilleur, c'est Master 2, Master 3. Bon, il n'y a pas Master 3, autant pour moi. Master 1, Master 2, et doctorat, vous allez préparer un doctorat, vous allez faire ceci, etc. Mais le processus, c'est-à-dire que quand vous allez là-bas, la DBS, là, mais c'est des combines pas possibles. Mais les gens, mais les bourses qui arrivent, même les gens, ils sont même dispatchés ça avant le communiqué officiel. C'est ce qui se passe. Non, mais non, on dit ce qui se passe là-bas. Les gens se sont dispatchés les bourses avant même le communiqué officiel. Et maintenant, pour les destinations bizarres, il y a des bourses. C'est-à-dire, pour les destinations, bon, ils estiment que bon, là-bas, là, moi, mon enfant ne peut pas aller là-bas. Tu vois, les bourses là sont là. Bon, maintenant, si vous voulez aller avec vos enfants vers cette destination, vous prenez cette bourse-là. Mais les destinations les plus intéressantes, la France, l'Allemagne, par exemple, heureusement que l'Allemagne a un service de coopération, la DAD, la Deutsche Austausch Dienst Academy, je crois, c'est ça, si je prononce bien.
Tu y arrives.
Voilà. Donc, si par exemple, la DAD, ça c'est un service sérieux qui étudie les profils, les critères, et on n'a jamais appris qu'il y a eu des combines, par exemple, dans l'attribution des bourses au niveau de la DAD. Mais sur le continent ici, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maroc, on a de ces genres de combines ou de bizarreries qui pointent le nez à chaque fois qu'il y a des compatriotes. Parce que cette histoire de bourse, auparavant, ça ne posait pas problème. Mais depuis un certain nombre d'années, avec l'affluence au niveau de l'université de Lomé et les universités privées qui ne font que mentir à longueur de journée dans le pays, je ne vais pas citer les universités ici, mais vous les connaissez.
Et elles se reconnaissent.
Elles se reconnaissent en disant qu'on est en partenariat avec telle destination, telle chose, telle, alors que le plus petit diplôme même n'est pas reconnu par le CAMES. Donc, ça fait que les parents, une fois que leur enfant reçoit le bac ou obtient le bac, ils veulent que leur enfant aille fréquenter ailleurs. Oui. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas bien voulu répondre à notre confrère. Et ça aussi, ce n'est pas bien au niveau de l'autorité. Aujourd'hui, la loi sur l'accès à l'information nous oblige, nous journalistes, d'aller vers la source pour recueillir l'information. Maintenant, si la loi est en notre faveur et en faveur de l'autorité.
La source aussi est tenue
de donner l'information.
Oui, oui.
Mais il y a un problème qui se pose. Des compatriotes sont en otage dans un pays. Mais le journaliste, il va naturellement vers l'information. Il va chercher l'information. Et donc, le ministère ne peut pas. Mais ce n'est pas un secret d'État. Mais si les gens sont en otage, le ministère de l'Enseignement supérieur ne peut pas dire « Je ne vous donne aucune information » ou « Se tait ». Ça aussi, c'est des choses qu'il faut dénoncer.
Merci, l'homme Michel Tchadja. J'avoue que je ne maîtrise pas les conditions d'attribution des bourses. Mais ce que je sais, il y a deux sortes de bourses. Il y a certaines bourses qui sont octroyées par le pays d'origine, qui prend tout en charge. Il y a la deuxième option de bourse, c'est ce que l'État togolais paie. Mais ce que je sais également, c'est que ce que l'État togolais paie se révèle souvent insuffisant et les parents sont obligés de compléter pour leurs enfants. Ceux des auditeurs qui nous écoutent et qui ont des enfants boursiers à l'extérieur en savent quelque chose. Mais pour le cas d'espèce, c'est ça, la bourse que paie l'État togolais ne suffit pas pour prendre en charge le logement. Il y a cet arrangement que les étudiants ont fait avec les étudiants, avec les universités. On peut trouver que c'est sur le dos de l'État. On peut même dire que c'est pas très joli. Et quand l'État l'a découvert, il a suspendu. Sauf que quelque chose a été fait déjà à hauteur de 27 millions, qui fait que ces étudiants se retrouvent en otage. Michel, comment est-ce que l'État togolais et peut-être les étudiants, leurs familles et les universités doivent faire en sorte que nos jeunes étudiants se retrouvent libérés?
Non, tu sais ça, tu disais que tu ne connais pas les conditions d'attribution des bourses aux étudiants togolais. Tu peux chercher, tu n'en trouveras pas. Parce que même depuis quand nous on était encore à l'université, on voyait des choses inimaginables. Et on ne trouverait pas de réponse à ces choses-là. Donc, c'est pour dire que la DBS, depuis longtemps, c'est une boîte, je vais dire pratiquement opaque, ce qui se fait là-bas, si vous voulez savoir, mais vos yeux seront crevés. Parce que, il faut le dire, aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne, c'est que, excusez-moi, il faut le dire,
c'est que il faut le dire clairement, les étudiants là sont en train de voler l'État. Ça, il faut le dire. Ils sont en train de voler l'État. Il faut reconnaître cela. Mais quand l'État se rend compte que c'est comme ça et que les étudiants sont déjà dans une situation donnée, c'est pourquoi j'aurais voulu qu'on trouve une solution à ces étudiants-là quand même. Et après, on peut voir ce qu'on peut les réserver. Parce qu'ils ont volé l'État. Depuis un certain temps, l'État s'est rendu compte. Et l'État doit quand même réagir. Sauf que ceux qui réagissent comme ça là, s'il faut vérifier, s'il faut faire audit de DBS, de la direction des bourses et stages, mais je vous dis que il y aura des gens qui vont fuir ce pays. Vous voyez? Parce que de longues années, il y a des choses anormales qui se passent dans cette boîte-là. Et on a toujours. Et l'homme le disait, vous voyez. L'attribution des bourses même quand même on clame, on dit que on veut la transformer, il y a des choses qui se passent. Ça dit que c'est incroyable, mais c'est comme ça notre pays, ça avance comme ça. Et donc moi je veux que ces étudiants là, que l'État togolais l'aide à revenir, mais ils doivent rendre compte à l'État, parce que c'est le contribuable, hein. Et les autres ont réussi et ils n'ont pas cette chance, ils sont là. Au nom de quoi ils peuvent voler l'État et fréquenter, venir, alors que quand on sait que quand on revient ici, on n'a pas l'obligation de payer l'État. Les gens ont des bourses. Est-ce que le Togo n'a pas signé ça? Comme dans d'autres pays où vous avez la bourse de l'État, au retour, vous payez, vous travaillez, vous payez. Chez nous, ici, il n'y a pas ça.
Merci. C'est un problème humanitaire. Les jeunes étudiants qui sont pris en otage dans ce pays étranger, ils ont fini leurs études, mais ils ne peuvent pas recevoir leur diplôme. Ils ne peuvent pas non plus rentrer au pays, ni même aller continuer ailleurs. C'est quand même le Togo, hein. C'est le Togo officiel. Donc, le gouvernement, par le ministère de l'Enseignement supérieur, est interpellé. Comme Michel l'a dit, on règle le problème.
D'abord, oui.
D'abord, et puis on fait revenir les étudiants. Et on peut trouver. On peut finir le règlement ici au pays. Mais SOS, étudiants pris en otage au Maroc. Mérite vraiment qu'on s'intéresse à eux. Magloire ?
Oui, ça, c'est, j'avoue que je suis un peu déçu et surpris même par la narration qu'a fait de la situation le confrère Olivier, en disant qu'ils ont tenté de prendre attache avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui n'a pas voulu se prononcer là-dessus. Moi, je dis que c'est très grave. Quand on est ministre, on est un serviteur de l'État togolais. On parle quand même des étudiants togolais. Michel l'a dit, oui, ils ont commis des actes peut-être répréhensibles, d'accord. Mais ici, il y a urgence. On parle quand même des Togolais qui sont kidnappés, si on peut le dire ici.
Non, pas kidnappés quand même.
On dit les gars veulent revenir au pays, ils n'arrivent pas.
Mais pas kidnappés. Ils sont empêchés.
Ils sont empêchés, d'accord.
De rentrer au pays.
Mais il revient à l'État d'intervenir et protéger ses fils. Aujourd'hui, nous avons une ministère des Affaires étrangères chargé des Togolais de l'extérieur. Oui. Le professeur Robert Doucy, je crois qu'il est interpellé. Ah oui, parce que autant il prend l'avion pour aller à Azerbaïdjan, exenter les visas et tout ça,
Maldives.
Mais c'est bien. Mais on dit qu'il y a des jeunes étudiants togolais qui sont coincés quelque part.
Les Maldives, mais voilà. C'est une belle destination. Oh,
non, mais je vous assure, la situation est beaucoup plus sérieuse, nous en rions, mais je vous assure, même c'est un devoir constitutionnel de l'État togolais de protéger ses fils, où qu'ils soient sur la terre.
Devoir sacré de l'État.
Absolument, peu importe ce que les jeunes ont commis comme erreur. Aujourd'hui, on dit oui, ils ont volé l'État, entre guillemets, oui, d'accord, mais ils n'ont pas pris l'argent pour s'acheter du terrain à Diagbélé ou à Baguida. On dit en effet, non, n'y allez qu'au Puna Doua, n'y allez qu'au Bena. Ils n'ont pas les moyens, ok? Et ils ont trouvé une formule avec les universités en question pour les faire former, pour développer le Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas pris l'argent pour faire autre chose. Michel parlait tout à l'heure de ceux qui jouent au caïd aujourd'hui en disant, oui, ben c'est des jeunes, ils ont volé l'État et tout. Mais eux, là, si on veut faire l'audit de ce pays, je ne cautionne pas ce qui ne doit pas être cautionné. Mais raisonnons, il y a une situation qui s'est produite. Ces jeunes-là, c'est des cadres qui vont revenir construire ce pays-là demain. Alors, aujourd'hui, on les laisse là-bas parce qu'entre-temps, ils ont trouvé des gymnasies pour se faire former, pour servir l'État togolais. Je dis non.
peu importe ce qu'on leur reproche, l'État a l'obligation constitutionnelle et morale de sauver ces jeunes. Oui, après, oui, on pourra régler ce problème à la maison.
Merci. Mais oui, mais Olivier, c'est toi qui as débusqué ce lièvre-là.
Non, je crois que l'affaire est tellement sérieuse. Vous savez, ça pose la question d'ailleurs de la situation de nos boursiers à l'étranger.
Oui.
Vous savez, quand vous allez en études dans un autre pays, comment vous en sortez? J'ai jamais fait d'études dans un autre pays, mais j'ai vu des boursiers nigériens ici au niveau du lycée de Tourcoing qui vous permettez, hein, ça va choquer certains, mais qui parfois parmi elles, certaines qui vont sont obligées d'aller se prostituer.
Les filles. Puisque
j'en ai vu. Avant de joindre les deux bouts, avant de payer le loyer de manger, elles sont obligées à une période du mois quand tout est fini et que rien n'est encore arrivé, d'aller se prostituer. Ça, c'est pour les filles. Mais pour les hommes, bon, parfois c'est difficile. Ils n'ont rien à vendre aux hommes. Bon, maintenant, ça arrive. Mais ce n'est pas...
Donc, je préfère que nous ne parlions pas.
On ne va pas parler. Sinon, cette situation, c'est pour dire que la situation, quand on est à l'extérieur du pays, est difficile. Surtout pour des étudiants qui ne travaillent pas, qui ne font rien comme activité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est les études. D'accord. Donc, ils attendent soit de la famille et parfois la famille aussi a cette pression. Bon, certains sont obligés, vous n'avez pas les moyens, ne vous tuez pas à vouloir envoyer coûte que coûte vos enfants à l'extérieur. D'accord. Et pour finir, deuxième fini, vraiment.
Tu finis maintenant.
Non, les confrères disent quelque chose qui est très important. C'est comment notre pays défend ses citoyens à l'étranger. Pas seulement les étudiants, mais lorsqu'un Togolais vit à l'étranger, a un problème. Vous voyez, bon, quand on parle des Américains, là, ça, le problème ne se pose pas. La nationalité, déjà, est un passe-partout et c'est un trésor. Mais nos concitoyens, lorsqu'ils ont des problèmes, dans des situations difficiles, voire impossibles, comment l'État intervient. Ça aussi, c'est une question.
Merci, merci. Non seulement Majesté Iou, mais Robert Doucet, vous qui avez en charge les Togolais de l'extérieur. Voilà de jeunes compatriotes pris en otage dans un pays étranger. Et je suppose que, comme ils ont fini leurs études, même la bourse, l'État ne leur envoie même plus la bourse. Voilà. Alors, ils n'ont plus la bourse, ils ne savent pas où loger, ils ne peuvent pas prendre leur diplôme, ils ne peuvent pas non plus quitter le Maroc pour rentrer chez nous ici au pays. Alors, les panafricanistes qui écument les réseaux sociaux, où êtes-vous? Mais attention,
mais il ne faut pas donner l'impression que nous cautionnons.
L'auditeur dit aussi que les étudiants s'y sont mal pris.
Oui.
Et celui qui a volé un œuf,
commencez
pas à tricher pour étudier quel cadre modèle il serait pour la nation.
Voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir. Si ils commencent d'abord par étudiants voleurs, quand ils seront des dirigeants, ça va être autre chose. Il faut quand même, mais pour autant, à partir du moment où ils sont dans une situation difficile, il faut les sauver. Mais on ne peut pas occulter le fait qu'ils sont mal pris, qu'ils reviennent, que l'État l'aide.
Et qu'on lave le linge sale en famille.
Mais il y a un aspect sur lequel je voulais revenir. Ouais. Olivier disait que finalement, bon, il prêchait dans le désert, il voulait faire des recoupements nécessaires, et apparemment, il n'a pas eu des oreilles attentives. Alors que, si je me rappelle bien, le chef de l'État avait, il y a de cela 4 ou 5 ans, au cours d'un séminaire, dit au conseil de gouvernement,
disons au ministre,
de communiquer suffisamment avec la population pour que les populations puissent savoir comment elles sont gérées, comment le pays est géré, pour que tout le monde soit quand même à même d'avoir une idée de comment le pays va. Et puis, le second aspect aussi, c'est que il faut le reconnaître aussi, la loi qu'on a votée, à qui nous donne accès, nous demande de pouvoir solliciter les institutions ou les services d'État, de l'État, pour avoir des informations, ça veut dire que jusqu'à présent, cette loi-là, vraiment, elle a des difficultés, parce que apparemment, ce n'est pas. Je parle de ce cas-là parce qu'il y en a. Il y a beaucoup de cas comme ça où on sollicite des gens en tout cas travaillant dans des institutions ou bien dans des services publics connus, mais vous allez passer un mois, vous ne trouverez personne pour vous éclairer, alors que vous, si vous êtes un journaliste de radio, vous avez besoin de ça pour votre papier. Si vous êtes un journaliste de la presse écrite, vous avez pour faire des recoupements nécessaires. Donc, ça veut dire que c'est sur le papier, on dit qu'on a voté cette loi, mais dans la pratique, aujourd'hui, c'est clair que ça ne marche pas. Personne ne s'intéresse.
Merci à vous. C'est un problème urgent. Aussi bien les ministres Majesté Iou que Robert Doucet doivent se sentir interpellés et s'activer à régler ce problème humain au plus tôt. C'est le Togo. Hein, c'est le Togo qui est en jeu. Le Togo, dont le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres hier pour la deuxième fois consécutive, le sujet numéro un, sinon le seul, c'est la sécurité sociale des populations, non, dont l'assurance maladie universelle. Je rappelle que c'était déjà le cas la semaine dernière. Et pour résumer l'essentiel du long communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres hier, on apprend que maintenant il y a deux organismes porteurs de l'assurance maladie universelle, l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, qui conserve ses missions actuelles pour les agents publics et assimilés et les titulaires de pensions civiles et militaires, auxquels s'ajoute la gestion de l'assurance maladie universelle au profit des personnes et ménages vulnérables. Et puis de deux, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui sera gestionnaire de l'assurance maladie universelle pour les salariés et titulaires de pensions du secteur privé, les travailleurs indépendants des secteurs informels et agricoles, ainsi que les ministres du culte. Alors, tous les sept décrets détaillent chacun un aspect de cette question, tout en laissant le soin au public de mieux s'approprier ce communiqué. Magloire Flambeau attire notre attention sur un cas social, c'est la question de l'espérance de vie. Et vous êtes parti d'un document du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, au terme duquel au Togo, l'espérance de vie au Togo est ou serait de 61,82 ans en 2023. Ceux qui vivent à Lomé dans les villages apprécieront. Mais le problème que vous posez, c'est que c'est orienter la politique sociale à l'endroit des personnes du troisième âge.
Évidemment, vous savez, le sujet nous interpelle tous parce que à se tabler justement sur le document des Nations Unies, on comprend aisément que aujourd'hui au Togo, quand vous avez peut-être 62 ans, c'est que vous êtes déjà assez vieux pour mourir. En termes de chiffres, on peut dire que c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est rien du tout, parce que après la soixantaine, c'est vrai, c'est presque la fin d'une première vie et le début d'une nouvelle vie. Mais si on peut déjà mourir à la soixantaine, c'est dit qu'il y a un sérieux problème. Et on a poussé plus loin nos réflexions, on a questionné des spécialistes en la matière, et il nous revient que tout ça, c'est la résultante un peu d'une politique sociale qui n'est vraiment pas porteuse pour les couches vulnérables. Parce que, vous savez, lorsqu'on prend, par exemple, on s'en réjouit que ces derniers jours, le gouvernement se tape beaucoup plus sur la politique de l'assurance maladie universelle, et c'est de bonne guerre, parce que la version qui était là, c'est que ça ne prend qu'en compte que les fonctionnaires, les assimilés, les pensionnaires. Or, vous allez, quand vous faites
les retraités,
vous faites un petit calcul.
Public
ça fait à peu près 15 à 20% de la population togolaise. Alors que la majorité, elle est laissée de côté. Et or, il se trouve que le secteur informel ou mobilise même beaucoup, une frange partie de la population togolaise. Et donc, beaucoup de spécialistes ont estimé qu'il était important pour le gouvernement togolais de réorienter sa politique sociale. Et comme je l'ai dit, on s'en réjouit qu'aujourd'hui, ça vient, et c'est comme cela qu'on va redynamiser les choses. Vous voyez, beaucoup de gens meurent au Togo et un peu partout en Afrique, pas parce qu'ils sont assez vieux pour mourir, mais par faute de moyens
te surdissant. Des gens arrivent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les premiers soins, ils décèdent. Posons-nous la question de savoir pourquoi dans le monde occidental, les gens ne meurent pas jeunes. On meurt très âgés, hormis les cas d'accident et tout. Généralement, les blancs meurent assez vieux. Et ça voudra dire, et vous vous posez la question, vous allez en Occident, c'est que la politique sociale est vraiment dynamique. Elle est vraiment dynamique. Et ça permet aux gens de vivre beaucoup plus longtemps. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement a senti le besoin de réorienter sa politique vers l'assurance maladie universelle. Nous pensons que c'est vraiment un pas qualitatif qui est posé. Mais alors, il ne faudrait pas que ça soit des effets d'annonce. Il faut véritablement mettre les moyens qu'il faut, les hommes qu'il faut, faire le suivi régulier et sérieux de toutes ces politiques pour que nos âges puissent augmenter.
Je peux te rassurer, mais quand un gouvernement, avec en tête le président de la République, pose le problème et il consacre deux semaines consécutives et qu'on annonce que le début de l'extension intégrale, c'est le 1er janvier 2024, un gouvernement et son chef d'État, qui sont quand même responsables, savent qu'il ne doit pas faire que des effets d'annonce.
Évidemment, nous ne disons pas le contraire. Sauf que nous sommes des journalistes, on place les décors. Exactement, et on va les suivre, c'est tout ce que nous disons.
Merci. La population qui a également besoin de l'eau. L'eau pour les périphéries de Lomé, c'est comme ça qu'on peut sous-titrer cette information dans la revue de presse avec ce que le confrère Le Changement et Le Dialogue écrivent. Il s'agit d'un projet lancé par la chef du gouvernement il y a quelques jours. Il s'agit du projet qui porte accès à l'eau potable dans le Grand Lomé. Le gouvernement qui a lancé ce projet par la première ministre et Ouara les vainqueurs qui y consacre un article aussi, mais également le détective. Alors c'était le 10 octobre dernier, mardi. Le projet, c'est le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo, donc PACHE MUT. Donc ce projet financé à hauteur de 100 millions de dollars, environ 60 milliards de nos francs, et par la Banque mondiale, a pour objectif d'étendre l'accès de l'eau potable dans le Grand Lomé, notamment les périphéries de Adetikope Est, Togblekope, Apesito, Kohe, Zangera, Devego. Michel, ton quartier est pris en compte?
Non, tu n'as pas encore cité son quartier.
Non, c'est fini, j'ai fini la liste. Je reprends. Adetikope Est, Togblekope, Apesito, Kohe, Zangera et Devego.
Oui, c'est s'il n'y a pas Sobochito dedans. Mais c'est pourquoi Magua disait tantôt que par rapport à ces projets comme ça, il faut que les gens, les populations suivent. C'est vrai, on a quand même lancé à partir de la réunion de la dernière fois, la première ministre a lancé le projet concernant l'addition d'eau dans certains quartiers du Togo. C'est bon, mais il faut que la population, il faut que nous arrivions à suivre cela. Parce qu'il y a deux ans, quand vous allez dans les quartiers comme Sobochito, Madikpeto, mais on a enterré les tuyaux de la TDE. Comme quoi, il y a un projet qui doit alimenter cette zone-là. Mais nous étions très heureux il y a deux ans et il n'y a même pas une goutte d'eau qui passe devant nous.
Deux ans après,
les tuyaux sont là-bas. Il n'y a rien. Mais alors, comment on peut... Je ne sais pas, c'est quoi, dû à quoi, et personne n'explique, il n'y a pas d'explication. Et puis...
Non, il pourrait y avoir explication parce que je n'étais pas au lancement du projet par la première ministre, mais les éléments de langage nous sont revenus. Alors, la première ministre qui aurait dit, ou bien qui a dit, je le cite d'après les coupures d'organes, je cite la première ministre, il n'y aura aucune tolérance pour les projets mal exécutés. Aucun retard, aucune malfaçon techniques et aucune gouvernance approximative du projet ne seront tolérées. Et elle continue, plusieurs projets sont actuellement en cours de réalisation et méritent d'être accélérés. Nous devons travailler de manière coordonnée pour aller plus vite. Alors, si un chef de gouvernement parle comme ça, c'est pour reconnaître en français facile qu'il y a eu beaucoup de projets lancés et qui traînent encore ou bien qui n'ont pas été exécutés.
Voilà, jusqu'à ce jour, ces tuyaux sont là-bas et il n'y a rien. Et on ne dit rien. Donc, c'est pourquoi quand aujourd'hui les Togolais veulent croire à ce qu'ils voient. C'est comme ça.
Comme Saint Thomas de la Bible.
Oui, c'est comme ça. On ne peut pas venir dire à quelqu'un, bon, demain matin, ça on va faire ceci et puis il va applaudir. Non, les Togolais, quand vous regardez comment quand ils voient, ils disent, ok, là, c'est bon. Mm-hmm. Sinon, qu'on a dit, non, les Togolais, c'est vieux ça. Les gens ne pensent pas à ça.
Bah, les propos de la première ministre, je pense qu'elle a voulu lancer un message à l'opinion, en commençant par ses propres ministres du gouvernement. Parce que si un projet est lancé, c'est que le projet est porté par un ministère. Et si le projet ne marche pas, ou bien marche mal, le ministre porteur du projet est le premier responsable en principe.
Michel a dit quelque chose tout à l'heure. Les gens préfèrent voir maintenant les choses se réaliser plutôt que d'écouter des paroles. Un premier ministre a dit dans ce pays, à l'occasion d'une Coupe d'Afrique des Nations, lorsque le rapport a été publié, je cite, « Personne ne gardera par devers lui un seul franc », fin de citation. À ce jour,
c'était à Oumezounou,
ce premier ministre n'est plus aux affaires, mais personne n'a été inquiété dans cette affaire de
Cameroun. Et la lumière n'a jamais été faite.
Jamais. Les gens gardaient les francs par devers eux. Qui a branché? Donc, les discours, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Parce qu'on a eu suffisamment de mots, déclarations, chocs. On en a suffisamment dans les journaux. Si on fouille nos archives, on va vous sortir des discours de premier ministre qui vont vous faire tomber à la renverse.
Et même des discours de président de la République aussi.
Voilà, donc, aujourd'hui, on est plus dans l'action. Et l'action consiste à faire quoi? Aujourd'hui, dans le Grand Lomé, il y a des quartiers qui ont des difficultés d'accès à l'eau potable. La TDE est là, mais le Grand Lomé, je ne sais pas comment ça se fait, mais je sais que c'est un défi permanent pour la TDE, hein, la distribution de l'eau. Parce qu'avec la politique des grands travaux, on casse des bouchons ici, on casse des tuyaux là et tout ça. Donc, ça fait que des fois, c'est perturbé. Mais on ne peut pas comprendre qu'en pleine capitale, qu'il y a des quartiers où les gens se réveillent à 4 heures du matin pour trouver quelques gouttes d'eau parce qu'à partir de 6 heures, c'est saturé.
Ce que tu dis là, dans le quartier Gbeyedjikopé, il y a des travaux qui ont commencé là-bas. Et les populations se trouvent privées d'eau depuis bientôt 2 ans. Ah. En pleine ville de Lomé.
Ah voilà. Même à Badago ici. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais ils ont quand même des compteurs TDE. Badago ici à côté. Et dans ça, pour construire un forage, maintenant, on réglemente l'activité. Ce qui est quand même normal. Parce que avec tout ce qu'on constate sur le marché en termes de Piwata, qui n'est vraiment pas pu. Je crois quand même qu'à un moment donné, il fallait mettre des verrous pour que, on puisse réglementer. Maintenant, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne le bien fondé de la démarche. Il faut beaucoup plus de pédagogie, de sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut installer un forage, parce que, regardez par exemple la Guinée où des gens n'ont pas accès à l'eau potable pendant 2 ans. Mais les gens vont vivre de quoi? Mais l'eau, c'est une denrée. Ça dit que c'est une denrée vitale.
Il n'y a pas de vie sans eau.
Il n'y a pas de vie sans eau. Maintenant, ils vont faire comment? Il faut installer un forage. Ou bien, ceux qui ont les moyens, ils vont installer un forage. Ou bien, on est d'accord. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement dit concrètement? Est-ce que pour installer un forage, il faut payer?
Alors justement,
on n'a jamais dit ça.
Je reviens à Michel, c'est toi qui le dis, qui l'écris. Nous allons vers la mise en place d'une police de l'eau. Le ministre d'État, Yacques, l'a dit la dernière fois, que nous ne sommes pas surpris. Si quelqu'un débarque chez nous et demande le document sur l'autorisation sur la base de laquelle nous avons fait notre forage, mais dans le réel, comment est-ce que ça va se faire? Si il n'y a pas d'eau dans un quartier et que des gens se débrouillent par eux-mêmes pour creuser un forage, est-ce qu'ils ont commis un crime?
Non, ils n'ont pas commis. Mais il faut qu'on se le dise. Le sous-sol appartient à l'État. Vous comprenez ça,
c'est clair.
Et l'eau est une mine entre griffes.
Oui.
Et donc, d'accord. Il faut quand même.
En même temps, disons que l'eau, c'est la vie.
C'est la vie. Et donc, sur cet aspect, je pense que si le gouvernement, moi, c'est mon, ma compréhension des choses, hein, peut-être surveiller à ce que les gens puissent respecter les normes dans le, comment l'appelle-t-on, dans le, la réalisation des forages, et que les gens puissent quand même avoir, en tout cas, cette ouverture d'esprit d'aller faire étudier l'eau par les services compétents avant sa consommation. Je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'on est en train d'avoir. Parce que l'État est dans l'incapacité de fournir l'eau à,
tout le monde.
À tout le monde. Et donc, ceux qui ont les moyens, quand même que l'État les accompagne, mais qu'il n'y ait pas de désordre dans ce sens-là, parce que l'État est aussi responsable de la santé publique des populations. Donc, le sous-sol appartient à l'État. Il faut que tu aies acheté ou pas. La preuve, chez toi, avocat, on déplace les gens, non? Ou bien?
Donc, j'ai ensuite le prototype.
Voilà.
Donc, de population déplacée. Donc,
L'État doit prendre ses responsabilités dans ce sens. Mais, comme lui-même, il est incapable de donner l'eau à tout le monde. C'est pourquoi, quand j'écoutais la Première ministre être tellement sérieux dans, en tout cas, dans l'application donc de ces projets, j'ai compris, parce que c'est une voie incontournable si on veut aller vers l'émergence. On ne peut pas faire l'émergence dans un pays où les gens n'ont pas l'eau pour boire. Ça n'existe nulle part. Donc l'eau là, il faut que ça commence par l'eau. Or nous n'avons pas l'eau. Comment on peut être un pays émergent où les gens ont soif?
En même temps, on ne saurait être pays émergent si nous n'avons pas une connexion internet fiable, si on ne peut pas faire Wi-Fi. Or, depuis quelque temps, il y a une polémique.
Mais la question de l'eau.
Oui, je sais, il y a beaucoup.
Oui, non, mais moi, j'ai une association qui s'appelle le RIJAO, Réseau des journalistes pour l'eau, l'assainissement et la protection des océans. Et nous avons été l'une des rares associations à être invitées par la Banque mondiale pour assister au lancement. Le mardi dernier,
vous étiez au lancement,
nous avons posé des questions au ministre et c'est l'une des questions que j'ai posées à laquelle la ministre et le ministre Yarka a répondu et qui fait aujourd'hui polémique par rapport à la gestion.
À l'autorisation préalable avant de
non, pas forcément une question d'autorisation. Certes, il y a le code de l'eau et en réalité, tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça se trouve dans le code. Et on dit nul n'est censé ignorer la loi.
En République.
Pour faire un forage. Y compris les sociétés, les entreprises qui créent des forages au Togo, ils doivent prendre des licences, demander une autorisation. Et si vous êtes un privé, vous voulez faire un forage dans votre maison, vous devez prendre une autorisation
Même dans son domicile.
Même dans sa chambre. Ça, c'est un élément très important à souligner. Mais au même moment, on a un problème. L'État n'arrive pas à faire face à la demande. D'accord ? Le Togo n'a pas de problème de stress hydrique, c'est-à-dire nous avons un sous-sol qui a de l'eau pour le moment, d'accord, et nous sommes au pire un pays côtier, c'est-à-dire au pire des cas on peut trouver de l'argent pour faire la désalinisation de l'eau, d'accord, donc on n'a pas encore un problème d'eau aujourd'hui au Togo, mais les infrastructures, puisque les techniciens l'ont dit, les infrastructures datent de la TDE, datent des années je ne sais pas X. Donc, ces infrastructures ne peuvent plus répondre à la pression, à la pression de la population qui s'accroît aujourd'hui. Donc, ça, ce sont des éléments. On a de l'eau. Seulement, on n'a pas la technique ni les moyens de les distribuer. Donc, le ministre n'a pas forcément menacé. Le ministre a rappelé qu'il y a un code de l'eau qui fait savoir que pour ouvrir un forage, il faut avoir une autorisation. Maintenant, il y a une autre question qui a suivi. Lorsque quelqu'un qui est branché à la TDE, il se réveille chaque matin, il ouvre, il n'y a pas de goutte d'eau. Est-ce que si cette personne va faire un forage, est-ce que cette personne a péché, même si on va lui demander l'autorisation? Le ministre a dit non, mais il faut d'abord que l'eau soit disponible. Ok, oui. Et dans votre quartier, que vous ayez l'eau, la TDE vous offre l'eau, et vous allez faire un forage. Le forage aussi, n'oubliez pas que l'État a l'obligation, il a dit, de veiller à la santé et la santé des populations, la santé publique. Mais quelle est la qualité de l'eau que nous buvons? Et pour couvrir et faire un forage, il y a des normes. Vous ne pouvez pas faire un forage à 50 mètres, par exemple, des fosses septiques. C'est interdit. Mais nous, l'eau que nous buvons dans les forages, c'est nos propres selles. Puisque ça s'infiltre. et ça rentre dans l'eau, et ça, on récupère ça dans nos robinets. Tout ça, c'est pour qu'on dit l'autorisation, il faut qu'on veille à tout cela. En réalité, on dit mon peuple meurt faute de connaissances. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rentrer dans ce débat. Le ministre n'a pas dit qu'il va commencer, mais quand même, il faut informer les gens. Et
on l'avait dit, hein, l'État doit assumer d'abord cette tâche régalienne et aller ensuite par la pédagogie, expliquer le temps qu'il faut.
Oui.
Les gens comprendront.
Oui.
Mais pour revenir terminer avec Michel, l'émergence, le Togo arrête, mais cela passe également par la connexion Internet. Or, depuis quelques semaines, il y a cette polémique qui porte sur les Wi-Fi zones. Et là, Antichogbe, il n'y a pas beaucoup de temps, mais tu fais un article qui revient sur le dernier communiqué de l'ARCEP sur le sujet. Qu'est-ce que l'ARCEP dit concrètement sur les Wi-Fi zones?
Ah, l'ARCEP a demandé à Togocom de revoir justement ses tarifs à la baisse et de pouvoir cesser immédiatement la fermeture des zones Wi-Fi. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, il y a une décision qui réglemente les secteurs. Et donc là, je crois que, comme je l'ai dit il y a une semaine sur ce plateau, que les offres proposées par rapport à l'activité de Wi-Fi zone en termes de contenu sont trop chères. Vous ne pouvez pas demander à des gens, aujourd'hui, où toute la société est numérique, tout est digital maintenant, tout. Vous n'avez pas aujourd'hui un seul service qui n'a pas une application. Même les entreprises de presse ont des applications sur téléphone.
Même les individus.
Donc aujourd'hui, même vous êtes dans votre chambre, vous commandez, on vous livre. Jusque dans la chambre, vous pouvez être dans la douche, on vous livre. Et la connexion Internet va coûter, je ne sais pas, mais on ne peut pas demander à quelqu'un de payer 75 000 francs par mois. D'accord ? À une société et à commercialiser cela. Il va vendre ça à combien ? On nous impose maintenant les années 2000.
L'ARCEP relève que le Togo demeure parmi les plus chers de la sous-région en entrée et en moyen de gamme. La connexion au Togo est excessivement chère. C'est ce que l'ARCEP relève, aussi bien à Togocom que à Move Africa Togo. Mais comme nous sommes un état de droit, l'ARCEP demande et rappelle également que le service Wi-Fi Zone est encadré par le régime de la déclaration. Ceux qui veulent faire Wi-Fi Zone doivent également se déclarer auprès de l'ARCEP.
Oui.
L'état de droit que nous disons, cela comporte des droits, mais également des obligations. Alors, si on résume, Wi-Fi Zone, c'est free, mais allez vous faire déclarer à l'ARCEP. Comme forage, c'est bon, mais allez vous faire déclarer auprès des services compétents pour avoir...
Oui, mais l'ARCEP dit au même moment que, voilà, la connexion est chère au Togo.
Oui.
C'est le même aspect ARCEP qui impose des licences à 200 000 francs pour pouvoir faire du Wi-Fi zone. D'accord. Bon, comment prendre une licence à 200 000 francs pour quelqu'un et qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça veut dire obligatoirement celui qui crée ça doit vendre la connexion.
La question après, se trouve relancée. Il est midi par les 5 minutes déjà. Nos chers auditeurs s'impatientent en ligne. Souffrez que je vous arrête dans votre élan et que nous rebondissions avec les auditeurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, la parole est à vous, le premier auditeur, la première auditrice, bonjour.
Oui, c'est un auditeur.
Oui.
Et oui, j'ai maintenant Benoît Dagouin.
Oui, allez-y.
Bon, moi, j'aimerais poser une ou deux questions sur le mois de la consommation locale.
Oui.
Et comme vous avez dit, c'est dans les 8 États, les États qui décrètent le mois d'octobre comme le mois de la consommation
locale. Les 8 États de l'UEMOA.
Ok, merci. Moi, j'aimerais demander quels sont les effets, quelles sont les retombées. En décrétant un mois sur 12, dans une année pour la consommation locale. Quels sont les résultats, les profits? Parce que ce ne serait pas bien, par exemple, au Togo de décréter au moins, ou bien de prendre au moins 3 ou 4 mois pour sensibiliser les gens à consommer les produits locaux et le mois d'octobre pour ensemble, ou bien dans tout le pays, faire, par exemple, comme l'appelle le feu. Il y a des mains, je ne dis pas que c'est bon. Le fait de dire, par exemple, moi, Benoît, je peux dire qu'on peut dire que tout le monde va ajouter à son nom, le nom
L'ami Benoît, vous-même, vous continuez à vous faire appeler Benoît, alors que nous sommes en octobre. Et puis, la dernière fois au lancement, la ministre Rose Niveder Kai Sambiani avait rappelé le principe et les attentes. Et puis, nous, si, quand vous nous écoutez, nous disons que chacun s'approprie cela et que nous consommions ce que nous produisons et que nous produisions ce que nous consommons.
Ok.
Merci. Donc, votre deuxième question. Benoît, commencez. Soyez le premier à le commencer. Les autres vous suivront.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci. Le deuxième auditeur en ligne, il ou elle est là. Oui, bonjour. Allô, allô, l'ami en ligne. Ok. En attendant, qu'il est déjà là. Bonjour.
Oui, monsieur Sack, bonjour.
Oui. Oui.
Et pour cette histoire de bourse, si l'État veut aider ses propres enfants, qu'il le fasse. Pour cette histoire de bourse, j'en connais quelque chose, j'en sais quelque chose, monsieur Sage. Et Michel l'a dit, quand vous voulez voir ce qui se passe là-bas, il faut une autre pour le secteur.
Okay.
Quand vous voulez aider, il faut aider.
Oui.
Quand vous ne voulez pas, il faut laisser les enfants se débrouiller eux-mêmes.
Merci.
Et pour l'histoire de l'eau, effectivement, l'eau n'a pas de problème de tâche. Si c'était forage, ils nous produisent de l'eau avec des couleurs, là, il faut y veiller. Le ministre a raison, mais ce n'est pas à coût de l'argent. Merci.
Je vous en prie. Le troisième auditeur, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui.
Je voulais vous demander, vous avez cité...
Excusez-moi, vous êtes monsieur?
C'est Essa.
Essa?
Oui.
Ok, nous écoutons.
Vous avez cité les noms des quartiers pour la TD, là où on doit, pour le projet là, mais il n'y a pas le quartier en Hongkong.
c'est pas ça ce qu'il décide. Bon, là, excusez-moi, je me suis référé au journal Le Détective, qui nous parle des projets qui vont accueillir, qui nous parle des localités qui vont accueillir le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo. Et je le reprends, il y a Adeti Kopé Est, Togbe Kopé, Apesito, Kohe, Zangera et Devego. Alors, vous êtes là, l'ami Essa?
Oui, entre-temps, je vous avais informé une situation qui se passait dans notre quartier là. On a fait les demandes en 2020,
oui.
Temps de promotion.
Oui.
Mais on est venu faire la distribution d'une autorité, même à collecter l'argent, mais jusqu'alors...
L'ami Essa, je me rappelle qu'à l'époque, je vous avais recommandé de faire une délégation, d'aller voir le nouveau ministre d'État, ministre en charge de l'eau, et de lui soumettre vos préoccupations. Vous avez fait la démarche là?
J'ai fait la démarche, mais je n'ai pas pu l'arriver.
Ok, à défaut... Même si vous n'êtes pas nombreux, vous-même, monsieur Essa, vous pouvez... Vous-même, allez au cabinet du ministre Yark, insistez, il va recevoir, ou bien l'un de ses collaborateurs va vous recevoir, ou bien vous passez par l'ARCE, l'autorité de régulation des secteurs de l'eau et de l'électricité.
Okay.
Beaucoup de courage à vous, monsieur Essa.
Merci.
Vous avez un joli coq là-bas autour de vous.
Oui.
Il n'y a pas de l'eau pour le...
Vous n'avez pas d'eau, mais vous avez le coq. Merci beaucoup. L'auditeur suivant.
Allô.
Oui.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur
Alain de Cordoville.
Pardon?
Alain de Cordoville.
Je vous rappelle que nous sommes en octobre. Consommons local. Commençons par consommer au moins nos noms et prénoms. Ok, allez-y quand même.
Oui. Je dis bonjour au plateau.
Merci.
Bonjour.
Oui. Et quand nos étudiants ont des problèmes au Maroc, là, il faut les sauver d'abord. Il faut qu'ils reviennent au pays d'abord. Et quand ils sont là-bas et certains des journalistes sont en train de les condamner, là, vous trouvez ça normal?
Non, l'ami, est-ce que vous avez suivi l'émission?
Oui. Ton enfant est tombé dans le puits. La première des choses, c'est de le faire sortir du puits.
L'ami Alain, nous ne sommes pas des sapeurs-pompiers, nous sommes des journalistes. Nous avons le devoir sacré de vous donner l'information dans toutes les dimensions. Nous avons plaidé, nous avons interpellé directement le ministre de l'enseignement supérieur, son collègue des affaires étrangères. Mais nous avons relevé que ce que les étudiants ont fait, c'est du vol à l'endroit de l'État. Il faut appeler un chat un chat.
Monsieur Sass, vous pensez que les étudiants là sont des enfants de nos parents? Ce sont les pauvres qu'on a donné des bourses, qu'on a volé les bourses, les données.
Non, il n'est pas dans... S'il vous plaît, avant d'appeler, suivez-nous dans nos développements. En effet, on dit, suivez-nous d'abord. Je ne dis pas que ce que nous disons est bon, mais suivez-nous d'abord, écoutez ce que nous disons avant de nous compléter au besoin, s'il vous plaît. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Je salue le plateau.
Oui, c'est monsieur?
Le conseiller de Saguado.
Conseiller de Saguado.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Ça prend un temps.
Ah oui, un petit moment.
Oui, je ne sais plus. On ne sait plus parler.
Oui, allez-y, Red, s'il vous plaît, le temps est contre nous.
D'accord. Je vais encourager le gouvernement pour la distribution de l'eau qu'il est en train de faire. En lui rappelant de se souvenir du quartier de Saguado, au quartier Agostini, là où je suis là.
Oui.
La région n'est pas encore arrivée chez nous.
Oui, mais vous savez qu'il y a un grand château en chantier dans les locaux même du lycée de Saguado.
Oui.
Il y a également un autre chantier à Lankouvi. D'après les recherches, quand ces deux châteaux seront finis, par principe, nos quartiers Saguado et alentours seront desservis, mais nous serons là pour suivre ça avec vigilance.
D'accord, merci.
Je vous en prie. Merci beaucoup aux amis qui sont entrés en ligne aujourd'hui, qui nous ont complétés. Elamati Tchogbe, tu tenais à faire une précision
En quelques secondes. Vous savez, on a bien écouté ce que Madame le Premier ministre a dit, mais il faudrait qu'il y ait une suite ou un suivi dans l'action gouvernementale. On a l'impression que quand il y a un remaniement, quand il y a la formation d'un nouveau gouvernement, chaque ministre vient avec quelque chose qui lui tient à cœur. Cette affaire de... Quand vous regardez bien les portefeuilles au niveau des ministères, vous allez voir, depuis le gouvernement Aoumé Zounou, la succession de ministres qu'il y a eu, chaque ministre était venu avec quelque chose. Et quand le ministre s'en va, c'est que ses projets sont partis avec lui. Kakon Boukwa avait des projets, et il est parti avec... Et le ministère même, entre-temps, n'était plus le gouvernement. Il y a des ministères aujourd'hui qui sont là, les gens sont partis, mais ceux qui sont arrivés, ils ont carrément sorti autre chose. Ils ont laissé de côté et tout ce qui se faisait. Par exemple, je prends l'affaire de production d'eau pure en sachet. Antoine nous avait parlé d'agrément, que maintenant, pour commercialiser le Puata, il faut l'agrément, tout ça. On a fermé des usines de production de Puata. Mais depuis que le ministre qui avait fait ça était parti même avant l'arrivée de Victor Thiem.
C'était M. Nambagou à l'époque.
Mais quand M. Victor Thiem est arrivé, silence radio. Il n'y a rien. Il est parti. Et
non, il a quand même fait des ateliers par-ci, par-là.
il a fait des ateliers, mais bon, les histoires de Puata, c'est un exemple que je donne par rapport à un département. Il y a d'autres départements, mais quand les gens arrivent, chacun vient avec quelque chose. Et ça ne permet pas d'avoir une lisibilité dans l'action gouvernementale, c'est ce que je voulais dire.
Merci, tu as la parole, tu la gardes pour 30 secondes, un petit commentaire ou bien ton carton de fin d'émission.
Un petit commentaire, ça concerne la presse, ça concerne nous. Il faut que les gens arrêtent, je vais le dire encore une fois, de nous demander des PDF de nos journaux. C'est quelque chose qui m'énerve parce que j'ai mal parlé à quelqu'un la dernière fois pour ça. Et si quelqu'un me le demande encore, je vais mal lui parler. Que les gens arrêtent, quand les journalistes travaillent et publient les unes, que les gens arrêtent de rentrer dans nos inbox pour nous demander gratuitement le PDF. Un journal coûte 250 francs CFA. Je ne sais pas ce que les gens entendent dans ça. 250 francs, quand même. Si vous ne pouvez pas soutenir la presse avec 250 francs, je ne sais pas pourquoi vous allumez vos radios. Sincèrement. Faites-nous grâce de ça. 250 francs pour payer un journal. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, payez le vendeur qui est dans la rue. Là. Lui aussi, il a besoin de vivre. Payez le marchand de journaux. 250 francs. Il a sa commission dans les 250. Mais vous voulez tuer toute la chaîne, tuer les journaux pour juste vos intérêts. Quelqu'un dans sa chambre, allongé sur son livre, dit PDF. Mais ça veut dire quoi?
Merci. Michel Tadja.
Je n'ai pas de carton, mais si vous regardez notre rue, nous avons parlé d'un trou entre Lomé... Port Lomé Simtogo.
Oui.
Je profite de cela aussi pour parler du trou dont je parlais tout le temps ici. En temps, certains sont venus mettre un peu de sable juste, mais ça a recommencé.
C'est à quel niveau?
C'est quand tu veux aller chez Thébo là, à M. Ndobé là.
Quand tu veux aller chez toi à la maison.
C'est au feu rouge de l'Egbacito.
Oui.
Quand vous commencez le goudron, quand vous finissez le goudron, vous prenez la route pour aller à Missintové.
Oui.
Actuellement, que vous soyez sur une moto, dans un véhicule, j'avoue que arriver là-bas, vraiment, c'est très difficile. Ceux qui sont chargés de nous aider, ou ceux qui avaient mis un peu de sable là, de grâce, qu'ils viennent au secours aux usagers de
dans
la
ce
route.
Ce quartier, c'est quand même dans une commune.
Oui.
Ce quartier, c'est un village qui a un chef.
Oui.
Il y a un comité de développement, soit du village ou bien du quartier. Il y a des syndicats qui passent par là. Il y a des riverains qui passent par là. Comment est-ce que nous sommes organisés pour qu'un simple trou dans la chaussée, on ne
puisse pas... Et ça crée des désagréments.
Et vous voulez être pays émergent.
Voilà. Donc, franchement...
Je vais peut-être me répéter par rapport au sujet lié, n'est-ce pas, à l'espérance de vie. Et nous avons dit que c'est salutaire que le gouvernement ait, au regard de toutes ces analyses-là, opté maintenant pour l'assurance maladie universelle. Mais encore une fois, il faut qu'on le dise que c'est bien beau hein, qu'on tienne deux conseils de ministres axés essentiellement sur l'assurance maladie. Mais en même temps, il faut reconnaître que le rôle de la presse, c'est de faire la police également. On prend juste acte, ils ont dit... janvier 2024, on est là, on verra comment cette politique-là va être mise en œuvre et mieux appréciée. Mais pour le moment, c'est bon, mais on garde, on reste vigilant, parce que, comme on le dit, il y a plusieurs projets. Le chef de gouvernement même l'a dit, que désormais, il ne va plus avoir de tolérance pour des projets qui démarrent, mais qui ne finissent jamais. Mm-hmm. Ça voudra dire que l'assurance maladie aussi, ça peut être un vœu pieux, ça peut être de beaux rêves, mais il peut arriver qu'il y ait des éléments qui concourent à ce que ces projets ne puissent pas se réaliser. Mais nous serons là pour relancer le gouvernement par rapport à cela.
Il y a quelques jours, nous avons célébré la journée internationale de la fille. On a écouté les émissaires du gouvernement faire des discours. Eh bien, aujourd'hui, Flambeau nous invite à faire une plongée dans le monde des services de bar. C'est à la page 5 de Flambeau. Yao Olivier Adja, on termine par toi.
Oui, merci. Je crois que tu l'as déjà soulevé ça, que nos amis, les auditeurs, nous écoutent, ou écoutent au moins l'émission avant donc de prendre certaines positions. Nous avons dit ici qu'il y a une situation qui se pose et qu'il faut voler au secours des étudiants, tout en n'occultant pas le fait que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Si on disait seulement de les sauver et d'autres seront dans leur coin, vont se dire ah, eux aussi ça peut, ils peuvent faire ça et les journalistes seront là à les défendre. Donc je crois que le monde n'est ni noir ni blanc, le monde est gris. C'est-à-dire le monde est fait de tout, donc on peut pas seulement prendre un aspect d'une situation et le présenter pour faire plaisir à qui que ce soit.
Merci. Nous venons juste d'avoir le journal intelligent qui produit beaucoup d'articles, dont celui-ci intitulé « Afrique, comment échapper au piège des coups d'État ?» Quelques leçons du Ghana avec une belle caricature. Et puis l'autre article « Et le Covid Gate 2020 refait surface, le volte-face extraordinaire de l'Assemblée nationale » et bien d'autres articles aussi bien dans l'intelligent que dans tous les journaux parus aujourd'hui. Bon appétit à vous et demain vendredi, je sais que vous ne manquerez pas parce que le club de la presse va se délocaliser à Sokoré. Mmh. Sokoré qui nous accueille demain dans le cadre d'un forum. Il s'agit du forum économique de la région centrale. Quand vous suivrez l'émission demain avec ceux qui seront au plateau, vous saurez pourquoi le Togo ne s'arrête pas à Lomé, mais se délocalise un peu partout. À demain donc, vendredi, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.
93.5.
Canal FM.
Les laisser se battre l'un contre l'autre, pour un oui ou pour un non. Que ces gens corps, c'est le danger, les vies en danger, pour des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent. Arrêtez tout ça,
ou
pas faire si mal, ou demandant pardon de tout cœur à ceux qui ont souffert, souffert en silence. C'est le malin qui nous emporte.
Pardonnez, toujours pardonnez.
Faites de nos pour nous, mais pour le Seigneur. Apaisez ses souffrances et ses violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales. Car c'est l'Éternel qui sauve encore.
Faut pardonner cette fois 70 fois.
Nous implorons sa miséricorde. Faut pardonner cette fois 70 fois. Faut savoir que colère entraîne querelle. Il faut y renoncer même si c'est dur. C'est l'indulgence, la bonté de cœur qui nous faut à tous pour s'armer d'amour et mieux tolérer ces dérapages pour recommencer une vie meilleure. Les laisser se battre l'un contre l'autre.